Nous voilà déjà arrivés au sixième message concernant notre armure spirituelle. Après avoir parlé de la ceinture de la vérité, de la cuirasse, de la justice et des sandales que sont le zèle à annoncer l'évangile, nous allons nous arrêter plus précisément aujourd'hui sur notre bouclier. Prenons donc Éphésiens 6, chapitre 6, donc verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Alors, le bouclier n'est certainement pas l'élément le moins important de notre armure spirituelle. Le soldat romain que Paul a à l'esprit lorsqu'il utilise cette métaphore de l'armure n'aurait jamais pris son service sans se munir de son bouclier. En effet, celui-ci était essentiel, vous l'aurez bien compris, pour sa sauvegarde ainsi que pour les différents mouvements de troupes qu'il risquait de devoir faire, comme celui, par exemple, de la tortue. Faites ça sans votre bouclier. Mettez votre main à la place, ça ne va pas le faire, hein, vous avez bien compris. Le bouclier est un autre des éléments protecteurs de l'armure qui avait pour fonction de protéger le corps et la tête du soldat lors d'affrontements au corps à corps, mais aussi lors de tirs de projectiles de loin, ce à quoi Paul fait référence sous l'effet des flèches donc tirées par des archers. L'archer en question est d'une nature un peu particulière dans notre texte, puisqu'il s'agit du poneiros en grec, du malin, du mal, plus simplement encore, du diable. Ce sont surtout la nature des flèches enflammées qui pose vraiment question ici. En quoi consistent ces flèches? Qu'est-ce que Paul a à l'esprit lorsqu'il écrit cela? Alors, dans le domaine physique et militaire, techniquement donc, on enflammait des flèches surtout lorsqu'on défendait une place forte ou lorsqu'on voulait brûler un bateau. Inutile de vous dire ce qu'une flèche munie d'une flamme pouvait faire comme dégâts quand on la tirait vers un bateau et qu'on visait la grand voile. Les bateaux étant en bois, vous avez compris? Vous êtes des spécialistes militaires. Ces précisions pourtant ne nous aident pas à identifier les traits enflammés de notre passage. En fait, c'est en relevant un indice important dans le texte que nous allons commencer sans doute à y voir un petit peu plus clair. En effet, il nous est dit que le bouclier de notre armure est le bouclier de la foi. Posons-nous donc la question, de quoi la foi peut-elle nous protéger en particulier? Réponse, du doute et des tentations qui y sont liées. Alors certains diront, on vient de le voir, en introduction, que la foi et le doute ne sont pas antagonistes, qu'ils peuvent coexister, qu'on peut très bien croire et douter en même temps. C'est partiellement vrai, je pense, mais le fait est que le doute s'atténue à mesure que la foi grandit au travers des expériences que l'on fait de Dieu au cours de nos circonstances de vie. J'y reviendrai tout à l'heure. Car c'est donc bien de Dieu dont on doute quand on doute. C'est bien la foi en Dieu que protège notre bouclier. Il nous protège des doutes que nous pourrions avoir le concernant. À l'analyse, on peut douter de trois choses concernant Dieu. On peut douter de son existence. On peut douter de son amour. On peut douter de sa parole. Commençons par le doute concernant l'existence de Dieu. Alors, au risque de vous surprendre, et vous avez sans doute compris le côté un peu paradoxal de ce que Paul dit, nous ne parlons pas ici d'un agnostic doutant de l'existence de Dieu. On ne parle pas non plus d'un athée qui ne croit pas à l'existence de Dieu. On parle d'un chrétien. Car il est tout à fait clair que l'armure que Paul nous dit de revêtir est bien celle que ne peut revêtir qu'un chrétien parce qu'il est chrétien. Alors comment est-ce possible, me direz-vous? Comment un chrétien pourrait-il douter de l'existence de Dieu? En fait, le simple fait qu'il ait à se protéger du doute par le bouclier de la foi suffit déjà à répondre à cette question. La foi ne serait pas nécessaire si le doute n'était pas un problème. Je vais le redire, ça peut-être. Ça fait partie des choses qui n'atteignent pas toujours le cerveau de tout le monde. La foi ne serait pas nécessaire si le doute n'était pas un problème. Nous l'avions relevé lors d'un message précédent, entretenir notre foi, ça fait partie de la sanctification, entretenir notre foi et la faire grandir fait partie de notre responsabilité. On doit travailler à sa foi, pour le dire autrement. Rappelez-vous de ce petit verset que l'on connaît bien dans les milieux protestants, qui se trouve dans Habacuc, un petit prophète assez obscur, qui est très difficile à trouver dans sa Bible. Si je vous demandais de prendre votre Bible que vous n'avez pas avec vous, ça sera encore plus compliqué de le trouver. Vous aurez du mal à trouver Habacuc. Et il n'est pas bruxellois parce qu'il y a Cook dans son nom, en plus, je précise. Ce verset où il dit « Le juste ou le justifié » dans l'hébreu « vivra par la foi ». C'est un texte, c'est un verset qui va être repris à trois reprises dans les épîtres du Nouveau Testament. Alors c'est une promesse de Dieu. Le juste, donc le justifié, vivra par sa foi. Il sera rendu vivant par Dieu au travers de sa foi. Une annonce du salut, là. Mais c'est aussi une injonction, un appel à la confiance en Dieu. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui recite ce verset, en Hébreux 10, dira « Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Autrement dit, s'il cesse de placer sa confiance en Dieu, s'il doute de lui, s'il place sa confiance en quelqu'un ou quelque chose d'autre, s'il arrête de chercher Dieu, je ne prends pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Il est donc possible pour un chrétien de douter de l'existence de Dieu. Je vais prendre un autre verset qui va nous aider, du moins j'espère, à y voir un petit peu plus clair encore. Toujours dans la lettre aux Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, lui c'est bien entendu à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, suppose deux choses qui sont l'essence même de la foi. Croire que Dieu existe, ça, je pense que tout le monde a compris, non seulement admettre son existence, mais avoir trouvé par la foi le Dieu vivant et vrai, que la raison obscurcie, enténébrée de l'homme ne peut pas connaître, puis croire qu'il devient le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il est lui-même la plus grande récompense qui soit de ceux qui le cherchent, et auquel, dès lors, il est heureux de se manifester. Autrement dit, la récompense de la foi, c'est Dieu lui-même. Petite parenthèse, donc, pratiquement, hein, je fais une toute petite parenthèse, pratiquement, si vous recherchez la relation avec Dieu pour obtenir quelque chose de Dieu, vous êtes à côté de vos pompes. Vous possédez déjà ce que vous devez posséder, Dieu lui-même. Le reste est en plus. Comprenez la différence? La plupart des chrétiens demandent des choses à Dieu. Vous ne devriez aspirer qu'à une seule chose, c'est Dieu lui-même. Dieu pour Dieu, pas pour ce qu'il peut vous donner. Je referme ma petite parenthèse. Donc, recherchez autre chose que Dieu au travers de votre vie et vous ferez partie des idolâtres et donc de ceux qui ne croient pas en Dieu. La foi, la confiance du cœur et de tous les sentiments que nous pouvons exprimer envers Dieu, celui qui honore le plus, celui que nous appelons notre Père. Et voilà pourquoi la foi lui est si agréable, parce qu'il n'y a pas de plus grand sentiment que nous puissions exercer ou manifester envers Dieu que notre confiance, à savoir notre foi. Ça ne doit pas nous étonner, puisque la foi est la seule chose qui nous mette véritablement en communion avec Dieu. Et cette communion est le bien suprême de l'homme, l'unique récompense qu'il puisse désirer. La foi est donc ce sens spirituel que Dieu nous a donné à la conversion, qui nous fait discerner la présence et le caractère du Dieu invisible. La foi ordonne le désir de Dieu. La foi cherche Dieu, elle croit, elle sait qu'il existe. Elle maintient le cœur ouvert à l'action de Dieu. La foi reste en quelque sorte prosternée humblement et en attente qu'il se révèle. Voir Dieu en permanence et quoi qu'on fasse, avoir conscience de sa présence par la foi, marcher ainsi constamment avec lui, c'est ça en fait, en résumé, la vie chrétienne. Pour compléter ce que je viens de dire, j'aimerais prendre un autre verset avec vous, un verset qui nous donne en fait la définition de ce qu'est la foi biblique. Dieu ne nous a pas laissé ignorants de ces choses, il nous a laissé la définition de la foi. Quelle chance, hein ? Alors que cette épître a été quand même remise en question pour différentes raisons, à l'époque où on a fixé le canon biblique. Vous allez vite comprendre qu'on est très loin d'une vision minimaliste de la foi, une vague impression que Dieu existe. Ce texte est Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là encore, c'est un verset qui passe beaucoup au-dessus de la tête des gens. Je me trompe? Il est connu ce verset, en tout cas de certains d'entre vous, j'en suis sûr, mais souvent mal compris ou encore pas compris du tout. Permettez-moi donc d'illustrer ce que dit ce verset. Je vous demanderai de bien prêter attention au verbe que je vais utiliser dans mon illustration. Alors, je vais prendre Catherine, si elle le permet, comme vis-à-vis dans cette illustration. J'aurais pu prendre n'importe lequel d'entre vous, ou même moi. Ça va bien se passer, Catherine, rassure-toi. Pour voir Catherine, pour savoir, pour croire qu'elle est réelle, je n'ai pas besoin de la foi. Pourquoi ? Voilà, parce que j'ai la faculté de la voir, de sentir son parfum, d'entendre sa voix, etc. Mes sens me suffisent pour croire en l'existence de Catherine, pour savoir qu'elle existe. Mes sens sont ce qui me permet d'appréhender le monde visible. Okay ? Et c'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous a donné nos sens. Sens et sens, vous ne pourriez pas appréhender le monde visible. Par contre, pour voir l'invisible, pour appréhender ce qui échappe totalement à nos sens, nous avons besoin de la foi. Dieu nous a donné la foi. Donc, la foi, ce sont les lunettes que Dieu nous a données pour voir l'invisible. Pour dire autrement, si vous devez voir Dieu ou le monde invisible avec vos sens terrestres, naturels, physiologiques, vous ne verrez rien du tout. Par la foi, grâce à elle, je sais, les verbes, je sais que Dieu existe et que ce qu'il est et ce qu'il dit est vrai aussi sûrement que je sais que Catherine existe. Nicolas est content de l'apprendre. Je n'ai pas à croire en l'existence de Catherine. Je sais qu'elle existe. Pas plus que je n'ai à croire en l'existence de Dieu, car pour ceux qui ont la foi, savoir et croire sont synonymes. Savoir et croire, dans la pensée biblique relative à la foi, c'est synonyme. Ce sont deux termes, deux verbes synonymes. Je sais que Dieu existe, c'est une certitude. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux dit « L'existence de Dieu, par la foi, est une certitude. » Pour ça que même si je comprends ce que notre ami Frédéric Lenoir, mais il s'appelle Lenoir, pas Leblanc, je peux comprendre ce qu'il dit, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que les doutes qu'un chrétien peut avoir, encore une fois, s'atténuent ou doivent s'atténuer au fur et à mesure qu'il expérimente par la foi la présence et l'amour de Dieu au travers des circonstances, parfois difficiles, c'est vrai, de sa vie. Le grand Jean d'Ormesson, un écrivain que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours de beaucoup, qui est mort l'année passée, l'académicien, disait « Je doute en Dieu, tous ses livres parlent de Dieu alors qu'il n'y a jamais cru ». L'expression est jolie. Je doute en Dieu et je suis vraiment désolé pour lui. Mais moi, je sais. Par la foi, je sais que Dieu existe. C'est une certitude, pas une option ou une possibilité ou une approximation. Et dès lors, je vis en fonction de cette certitude. Je sais que Dieu existe et que ce qu'il dit est vrai avec une absolue certitude. On comprend dès lors que comme le dit Paul en Éphésiens 2, que la foi est le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à quelqu'un, car elle permet à ce quelqu'un de savoir que Dieu existe, de savoir qu'il a créé l'univers, de savoir que sa parole est la vérité. La foi nous permet de savoir et de ne pas douter. La foi est bel et bien notre bouclier contre le doute. Venons-en maintenant à notre deuxième chose dont on peut douter concernant Dieu, on peut douter de son amour. Je pense que ça reste quand même une des grosses problématiques. Alors ce doute-là, il faut le comprendre, nous sommes des êtres humains, à sa source dans notre nature humaine, dans le monde des sentiments et des émotions. Alors la chose n'est pas neuve, mais elle est importante à comprendre. Dietrich Bonhoeffer, le grand pasteur allemand des années 40, qui est mort, je le rappelle, qui est mort dans un camp de concentration allemand, nazi, pardon, disait ceci, « Dieu n'est pas un Dieu d'émotions sentimentales, mais un Dieu de vérité. Dieu n'est pas un Dieu d'émotions sentimentales, mais un Dieu de vérité. Nous sommes faits de sentiments, d'émotions et de ressentis. Mais ceux-ci étant marqués par la chute, ils ne doivent pas être suivis aveuglément parce qu'ils peuvent nous tromper. Nous pouvons ressentir émotionnellement beaucoup de choses qui sont bien réelles, mais ce n'est pas pour ça que ce que nous ressentons est juste et que ce que nous ressentons est conforme à ce que Dieu dit, être la vérité. Je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas neuf. En effet, il suffit de remonter un peu en arrière, quelques milliers d'années à peine, au début de l'humanité, pour prendre conscience de l'importance d'être au clair avec ça, parce que c'est de là que ça a commencé à foirer, pour le dire vulgairement. Petit verset dans le livre de la Genèse que je lis avec vous. La femme, hein, voilà, messieurs, et on les aime quand même. Le Seigneur est miséricordieux. Il faudrait que vous remontiez. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. On n'est pas dans le sud des États-Unis, il frit partout là, à cette époque-là. Et elle en donnait aussi à son mari, pauvre cloche, qui était avec elle, et il en mangea. Vous comprenez pourquoi? On dit oui, mais le mari est à côté. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est responsable comme sa moitié. Le serpent, déjà, il fallait se dire, elle aurait dû se méfier d'un serpent qui parle, c'était déjà pas très normal. Ben non, ça lui est parvenu, la pauvre, soit. Le serpent a instillé le doute quant à l'amour de Dieu, puisque celui-ci semble priver Adam et Ève de quelque chose de bon. Comment quelqu'un qui m'aime pourrait-il me priver de quelque chose de bon? Ça s'appelle éducation. Hein. En l'occurrence, ici, le fruit défendu. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le résultat est qu'Ève ressent le besoin de ce quelque chose, de ce que l'adversaire propose. Elle ressent ce besoin. Son ressenti est réel, hein? Non? Ben si. Mais qu'est-ce qu'elle en fait de ce ressenti? On a ici le schéma classique d'opposition entre ce que Dieu dit, j'allais dire ce que le pasteur dit, et ce dont nous pensons avoir besoin. En fait, entre la vérité et un surinvestissement émotionnel. J'écoute Dieu ou j'écoute ce que je ressens. À ce stade, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Hein, et c'est valable pour nous aussi. Hein. À ce stade, il n'y a plus rien à faire. Ce sera le sentiment, le ressenti, la tentation qui va prendre le dessus. Je rappelle qu'avant la chute, l'homme a reçu cette capacité de pécher ou de ne pas pécher. Après la chute, il n'aura plus que la capacité de pécher. C'était quand même assez important de ne pas se planter sur ce coup-là. Donc, il faut que nous comprenions que notre adversaire, notre archer de service, attaquera toujours à ce niveau-là, au niveau de notre ressenti émotionnel quant aux choses, aux êtres et à Dieu. Je n'ai pas besoin de donner trop d'exemples, je pense. Ce sont en relation les uns avec les autres, dans le monde sensible, en relation avec les êtres, avec les choses, ou même avec Dieu, on sait très bien que souvent on a un choix à faire. Et que souvent, à ce jeu-là, si je peux dire ça comme ça, mais c'est malheureusement Dieu qui perd, et puisqu'il perd, nous perdons nous aussi. Alors, je veux préciser ça parce que c'est important. Nos émotions sont ce que nous avons de plus beau, enfin, la plupart de nos émotions, et ce qui nous pose aussi le plus de problèmes. Ils font partie de l'image de Dieu que nous sommes, mais ne peuvent pas être déconnectés, ne peuvent jamais être déconnectés de la vérité de ce que Dieu dit. Ce que je viens de dire est vrai, même et surtout dans le domaine spirituel, dans notre relation à Dieu, ou justement dans l'expression de notre foi. Je m'explique. On a écrit beaucoup de choses au cours des siècles au sujet de la foi et de la vie avec Dieu. Énormément de choses. Des milliers de livres ont été écrits sur le sujet. Et des choses aussi assez étranges. Si, en tout cas, l'on s'en réfère à la parole de Dieu. N'importe quel livre, vous pouvez l'apprécier vous-même comme étant très bon. Mais à un moment, le bouquin, il faut l'ouvrir en parallèle avec la Bible et dire, et lire, étudier ce que la Bible dit de ce qui est affirmé dans le livre. C'est le principe. Et vous êtes tous responsables de faire cet exercice quand vous lisez un livre dit spirituel. dont l'affirmation de Frédéric Lenoir, vous auriez dû, vous devriez être capable de dire, il est bien gentil, c'est un intellectuel, mais il débite des conneries sur ce coup-là. Parce que la Bible infirme ce qu'il dit. D'accord ? Nous sommes protestants, les enfants. On a un cerveau. On a un cerveau. Le mysticisme qui a perduré dans l'histoire de l'Église et qui se retrouve aujourd'hui sous la forme des mouvements charismatiques en fait partie de ces choses étranges. Le mysticisme a pour doctrine que l'on peut communiquer directement et personnellement avec Dieu. Si je m'arrête là, on va tous dire, ben, c'est juste, hein, oui, par nos sens. Ah, c'est un petit rajout, mais par nos sens. Comprenez la différence ? Par nos sens. J'ai besoin de toucher Dieu, d'entendre Dieu. Oh, je t'aime. Enfin, ouais. Donc, quand quelqu'un me dit, Dieu m'a dit, ah, il faut prier pour lui. Dieu lui a dit. Vous savez, c'est malheureux à dire, mais vous savez dans quel endroit spécifique on entend le plus de gens dire que Dieu leur parle ? Dans les asiles psychiatriques. Donc je pense que certains grands mystiques de l'histoire de l'Église auraient été enfermés aujourd'hui dans un asile, parce qu'ils auraient été diagnostiqués. Donc le mysticisme a pour doctrine que l'on peut communiquer directement et personnellement avec Dieu par nos sens. La foi devient dès lors secondaire. Elle tente même à disparaître, puisque c'est l'expérience de Dieu par nos sens qui est mise en avant. Alors, la définition, dit Larousse, ajoute que cela mène à des comportements dominés par des sentiments religieux. C'est Larousse qui dit, hein, pas moi. Nous dirons donc aussi, nous, si on nous posait la question, que nous avons une relation personnelle et directe avec Dieu, ce qui est juste. La question importante est de savoir sur quoi repose cette relation. Sur les émotions ressenties au cours de cette relation, comme pour toute relation humaine sensible, ou sur la foi et la vérité. Nous allons nous rendre compte que le deuxième doute concernant l'amour, qui est en relation avec nos sentiments, est intimement lié au troisième doute concernant Dieu, douter de sa parole. Car l'expérience émotionnelle de Dieu ne remplace pas seulement dans le mysticisme la foi devenue dès lors inutile, puisqu'on sait Dieu au travers de l'émotion et de l'expérience mystique, mais bien également la vérité de la parole. Si c'est un chemin, ce n'est pas l'autre, hein. Si moi, mon rapport à Dieu, c'est mon expérience émotionnelle que je fais de lui, cette expérience va souvent infirmer ce que dit la Bible. Alors, voici deux exemples, je n'ai pas été très loin, hein. Je ne me suis pas fatigué sur ce coup-là, tirés des cris de deux très grands mystiques. Ce sont probablement les deux plus grands mystiques de toute l'histoire de l'Église. Sainte Thérèse d'Avila, une grande mystique espagnole du XVIe, a écrit... Le doute est mon don spirituel. Alors, si on est gentil, on n'est pas trop théologien, on se dit, oh la pauvre, elle n'a pas de chance. Alors que toute la Bible enseigne que c'est la foi qui plaît à Dieu. Elle déclare que le don que Dieu lui a donné, c'est le doute. C'est un drôle de père, ça, quand même. Vous ne trouvez pas ? On n'a plus besoin de notre archer de service. Dieu se charge du tir. Ah, oh, j'ai envie de la faire douter. Alors, paf ! Okay. Alors, je précise, et ça c'est dramatique, que notre amie Thérèse a été faite docteur de l'Église catholique romaine en 1970 par le pape Paul VI. Un autre. Alors, lui, par contre, il y a des trucs à tirer de ce qu'il écrit. Saint Jean de la Croix, lui aussi un grand mystique espagnol du XVIe siècle, auteur entre autres de La nuit obscure de l'âme, un livre que j'ai et que honnêtement je conseille à tous les chrétiens de lire, mais il y a des mais. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout jeter en l'air, mais il faut réfléchir. Il écrit ceci, dans la nuit obscure de l'âme, toutes les lumières s'éteignent, plongeant le croyant dans la foi la plus nue, parce qu'elle n'a plus rien sur quoi s'appuyer. C'est ainsi, dit-il, que Dieu éprouve le fidèle pour le conduire plus loin, sur le chemin de la perfection de l'amour. Ce qui est très intéressant, et je refais une petite parenthèse avant d'aller plus loin, c'est que ce sont deux mystiques espagnols et qu'on est au XVIe siècle. La réforme, c'est quel siècle ? Le retour à la parole de Dieu, c'est le XVIe. Quel est le grand pays de la contre-réforme qui s'est opposé le plus au protestantisme ? S'il fallait des éléments historiques, je ferme la parenthèse. Je répète ce qu'il dit Jean de la Croix. Je ne dis pas que ce n'est pas un chrétien, que ce n'est pas un homme de Dieu. Je dis que sur ce coup-là, il s'est fourvoyé et tous ses petits cocos avec. Dans la nuit obscure de l'âme, toutes les lumières s'éteignent, plongeant le croyant dans la foi la plus nue, parce qu'il n'a plus rien sur quoi s'appuyer. C'est ainsi, dit-il, que Dieu éprouve le fidèle pour le conduire plus loin sur le chemin de la perfection et de l'amour. Alors bien entendu, Jean fait référence ici, dans ce que je viens de dire, à la foi la plus nue. Mais réfléchissons. Quelles sont ces lumières qui s'éteignent et sur lesquelles le chrétien est supposé s'appuyer en temps normal, d'habitude? De quoi la foi de Jean, dans cette expérience, est-elle dénudée? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Des émotions par lesquelles on est en relation avec Dieu. On peut comprendre, si ce sont les émotions et non la foi qui arbitrent notre bien-être spirituel, nous serons donc soumis à l'arbitraire de celle-ci. Je me sens bien et joyeux, je suis proche de Dieu. Je suis haussade et anxieux, je suis loin de Dieu, et donc quelque chose cloche. Au mieux, je suis en train de passer par la nuit obscure de l'âme. Alors c'est vraiment dommage pour ceux qui sont naturellement maussades et anxieux, et une chance pour les indécrottables optimistes. De plus, le sentiment d'absence de Dieu est un sentiment. C'est moi qui ressens cette absence. Et ce sentiment ne conduit pas à plus d'amour, comme le dit Jean de la Croix, mais à plus de péché. Comment je le sais? C'est parce que c'est ce que la Bible dit. J'ai pris trois textes dans Ésaïe, qui est appelé quand même le cinquième évangile. Je me suis caché, c'est Dieu qui parle, je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui a indiqué son cœur. Il y a une conséquence directe, si Dieu se retire, c'est de ça qu'on parle, il devient absent. S'il devient absent, il me laisse à moi-même et je pêche, encore plus que d'habitude. Deuxième texte, toujours dans Ésaïe. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Troisième texte, il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de notre propre faute. Il y aurait donc un lien objectif entre le fait que Dieu se retirerait de la vie de quelqu'un et de ses facultés laissées à lui-même, où il pêcherait d'autant plus davantage. Je vais le dire autrement, quel serait donc l'avantage pour Dieu dans son rapport avec ses enfants de se retirer volontairement, de s'absenter volontairement de la vie du croyant, afin que celui-ci ne connaisse pas plus d'amour et d'approfondissement, mais qu'il s'éloigne de plus en plus de Dieu? Et le Saint-Esprit, il est à demeure, mes amis. La présence de Dieu en nous, elle est à demeure. Donc le mysticisme, ou c'est son expression moderne, j'ai envie de dire, ou le charismatisme, c'est l'expérience de Dieu par l'émotionnel et le ressenti. La vérité dans le mysticisme, c'est l'expérience que l'on fait, mais très rarement ce que Dieu dit. La présence de Dieu, mes amis, il faut vraiment qu'on comprenne ça, parce qu'on va se rendre malheureux. La présence de Dieu n'est pas une émotion ou un ressenti, c'est un fait. Un fait intégré par la foi. Je sais que Dieu est là et qu'il m'aime indépendamment de ce que je ressens. À ce tarif-là, les chrétiens dépressifs, ils n'ont plus qu'à se foutre une balle dans la tête. Parce qu'eux, ils vont avoir du mal à ressentir la bonté de Dieu. Mais Dieu est là, quand même. Et c'est comme ça qu'ils en sortent finalement. Mais si on leur dit, oh là là, si tu es en état pareil, c'est que tu as un solide problème. Ou qu'on lui a enseigné ça. Mon Dieu, je vais mal, donc c'est que Dieu n'est plus là. Ouais. Ça signifie aussi que Dieu ne change pas. Parce que mon ressenti change. Et ça, c'est quand même important de comprendre. Votre ressenti, c'est votre ressenti. On le respecte. Voilà. Ce soit le mien ou le vôtre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est juste. Je peux ressentir une envie extraordinaire de foutre un coup de boule à mon voisin. Est-ce que c'est juste? Bible en main. Voilà. C'est un peu tarte à la crème comme exemple. C'est pour ça que nous avons des raisons qui viennent naturellement. Donc, je résume, si je peux dire. Si Dieu avait voulu passer par notre monde sensible et nos émotions pour nous parler, pour être en relation avec nous, il ne nous aurait pas laissé sa parole. Et il ne nous aurait pas donné la foi. Et ça n'empêche pas aux différentes sensibilités de s'exprimer. Je vais être pratique. Si vous êtes un émotif extraverti, Mais pleurez, hurlez votre amour de Dieu. Hein. Amen. Allez-y si vous êtes comme ça. Mais n'en faites pas la base et la mesure de votre vie et de votre santé spirituelle, et surtout pas celle des autres non plus. Tous les exaltés que je connais, c'est la, tout le monde va devenir exalté. Tu viens de perdre ton mari, tu devrais t'exalter, gloire au Seigneur. Tu aurais été déconné aussi. Si je m'emporte un peu sur ce coup-là, c'est parce que moi j'ai vu les dégâts que ça provoque dans la vie des gens. Oh Seigneur! Et puis un moment que c'est plus là, parce que nous sommes des êtres d'émotion et les émotions changent et fluctuent, c'est plus là. Donc Dieu n'est plus là et notre vie devient un calvaire. Et les chrétiens abandonnent. Parce que leur évaluation, leur relation à Dieu, ce sont leurs émotions et leurs soi-disant ressentis. Vous savez, il faut redire les choses quand même. Au bout du compte, ce ne sont pas ceux et celles qui lèvent les mains au ciel quand ils prient ou qui gesticulent et se roulent par terre qui sont les plus proches de Dieu. Ce sont ceux qui lui obéissent. C'est ce que Jésus dit. Gesticuler, moi je peux le faire aussi. Vous voulez que je vous montre? Je suis un danseur émérite. Je termine en abordant brièvement le doute concernant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, j'en ai beaucoup parlé déjà. On va reprendre notre texte de la Genèse, on va retourner aux origines des choses. Toujours dans le chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Petite anecdote, Dieu n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas y toucher. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La seule différence, c'est que Dieu il peut le gérer, ça. Nous, on ne sait pas. Alors, on connaît le mal, mais le fait de le connaître ne nous empêche pas de le commettre. C'est suite à cet épisode que le diable est appelé par notre Seigneur Jésus le père du mensonge. Pourquoi père? Parce qu'il est à l'origine du mensonge. Parce que c'est ici que se trouve la source du premier mensonge. Et ça, c'est fondamental. Et ce premier mensonge est que Dieu ne nous dit pas la vérité. Dès que vous doutez d'une syllabe, et c'est Jésus qui le dit, d'un iota de ce que la Bible dit, vous êtes là. Et toutes les attaques contre la parole de Dieu, d'où qu'elles viennent, elles ont cette origine-là, peu importe d'où elles viennent. Il y a une stratégie mise au point ici. Elle commence sur un ton qui peut sembler neutre. Dieu a-t-il vraiment dit que... Il a vraiment dit, vous croyez? Et ce qui est très intéressant, c'est que Satan utilise ici le mot « Elohim ». Ça fait un peu arabe sur les bords. Et non pas « Yahvé ». Les premiers rangs ici, ils ont de la chance. Yahvé, qui constitue le nom et la seigneurie de Dieu. Il donne un vocable concernant Dieu en dessous de son nom personnel, qui implique qu'on doit se plier devant lui et lui obéir. Intéressant. Nous sommes en présence du premier dilemme, du premier choix de toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'avant cela, il n'y en a jamais eu. Et ce dilemme est simple dans son énoncé. Dieu a-t-il dit ? Douter de la parole de Dieu est l'essence même du péché. Tous les péchés, tous sans exception, ont à la source ce dilemme. Vous doutez de ce que Dieu dit, vous n'y obéirez pas et vous tomberez dans le panneau. Et pour la première fois, la plus puissante et mortelle force spirituelle entre sous couvert d'une innocente conversation entre la femme et le serpent dans le monde. Et quelle est cette force spirituelle? Eh bien, elle consiste à introduire l'idée que ce que Dieu dit peut être soumis au jugement de l'homme, évalué à l'appréciation de l'homme. Ça, je prends. Ça, c'est pas raisonnable. Ça, moi, j'y crois pas trop. Sans prendre conscience que c'est nous qui nous foutons dans le pétrin en faisant ça. La parole de Dieu devrait être évaluée, jugée, questionnée. Mais par qui? Ben par l'homme, par dit. L'homme va donner des leçons d'interprétation biblique à celui qui a écrit la Bible. L'homme devient, dans ce schéma, l'évaluateur de ce que Dieu est et dit. Vous ne trouvez pas qu'il y a un léger problème? Si Dieu est Dieu. Dieu doit donc avoir une raison dans son caractère, sa personnalité, de ne pas vouloir tout nous donner. C'est le poison qui est en train de faire son chemin dans le cœur de la première femme. Si vous commencez à douter de ce que Dieu dit et à introduire entre lui et vous le doute quant à sa légitimité de vous dire ce que vous devez faire et être, si vous dissociez ce qu'il dit, sa parole, de ce qu'il est, vous êtes sur le même chemin qu'Ève. Et Adam, hein, qui suit lui. Et ça doit devenir de plus en plus l'habitude. Avant, on passe d'un machisme exagéré à un misogynisme bon ton. On a coupé les couilles aux hommes, pardon. Vous vous retrouverez aussi à l'est d'Éden, perdu, sans même savoir pourquoi les arbres de votre fils spirituel ne donnent pas de fruits. Vous ne trouvez pas qu'on fait ça souvent, de ne pas tenir compte de ce que Dieu dit, honnêtement. Alors, le plus simple, c'est de ne pas étudier la Bible, comme ça vous ne savez pas ce qu'il dit. Donc, ça vraiment... ouais, de toute façon, il restera l'emmerdeur de service, hein. Vous le rappelez. Mais... Et ce qu'il faut encore préciser, je terminerai presque par ça, ce n'est pas quand Ève a mangé du fruit de l'arbre que la chute est survenue. C'est que quand elle a manqué de foi en ce que Dieu avait dit, c'est là que c'est tombé. La suite, c'est la conséquence. Elle a douté et là, c'est mort. Mes amis, de la Genèse à l'Apocalypse, ce ne sont que faux prophètes, faux apôtres, faux enseignants, faux messies. Et les vrais prophètes et notre Seigneur nous a avertis concernant ça. N'y allez pas, ce n'est pas moi. Paul, dans la fin des temps, il y aura des gens qui enseigneront des choses agréables à entendre. Ce que je viens de dire, c'est agréable, ce n'est pas agréable du tout. Ça vous remet en question. Voilà. C'est aussi bête que ça. Hein? Alors bien, de temps en temps, ça m'arrivera de dire des choses qui vous feront du bien. J'espère. Et alors, à présent que le canon biblique est fixé depuis quand même quelques centaines d'années, même plus, depuis des siècles, on pourrait se dire, ben c'est réglé. Non, la bataille entre la vérité et l'erreur continue à faire rage. C'était déjà l'enjeu de la réforme au XVIe siècle. Hein. Sola scriptura, l'écriture, seule, contre quoi? Contre toutes les rajoutes, les traditions, les machins. On s'en fout plein les fouilles, plein les thunes. Voilà. On est indépendamment de ce que Jésus dit par rapport à l'Église, on a inventé un truc pyramidal, etc. etc. Et je rappelle encore que les protestants n'ont jamais voulu, Luther en tête, créer quelque chose de nouveau. Ils étaient réformés ce qui existait déjà. Ils se sont fait excommunier. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur » qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font ce que je dis. C'est Jésus qui a dit ça. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur » qui entreront dans mon royaume, mais ceux qui font ce que je dis. Douter de la parole de Dieu, c'est douter de son amour. Et l'une des flèches du diable sera toujours de vous faire perdre la foi en la parole de Dieu. Ce qui vous fera, ce qui aura comme conséquence, mais on ne s'en rend pas compte non plus, mais je pense que c'est important de le redire, ce qui vous fera placer votre foi en lui, en l'ennemi de vos âmes. C'est cette illusion qu'il veut, lui, vous rendre libre. C'est ce qu'il vous dit. Ouais, mais tu ne vas pas te laisser encarter par un Dieu comme ça, restrictif. Suis-moi, moi, et tu seras vraiment libre. Tu seras libre de tes choix, de tes sentiments, de tes émotions. Libre dans ta façon de lire la Bible. Tu pourras prendre ce qui t'arrange et laisser le reste. Libre de tes expériences spirituelles. Libre d'avoir d'autres frontières et limites que celles fixées par cette parole de Dieu qui t'entrave et te limite. On peut recevoir, vous savez, beaucoup de flèches dans la vie. Hein. Et la plupart blessent, mais certaines sont mortelles. Hein. Mes amis. Et le doute envers la parole en est une de ces flèches. C'est une solide flèche. Or bien sûr, on n'en meurt pas tout de suite. Hein. On ne meurt pas tout de suite. On met souvent, malheureusement, une vie entière à mourir de ça. Si l'une de ces flèches vous atteint, vous relativiserez ce que la Bible dit et vous ferez dès lors des choix sur lesquels vous aurez beaucoup de mal à revenir parce que ceux-ci vous auront emmené trop loin, parfois toute une vie trop loin. Adam et Ève n'ont jamais pu revenir en arrière. Si vous vous rappelez du texte, hein, le jardin leur était condamné à tout jamais. Dieu a placé un kéroubim à l'entrée du jardin pour leur empêcher le retour. C'est pour ça que l'homme il est en exil depuis. Quand vous lisez la Bible, le nombre de personnes qui sont en exil géographique, qui se déplacent tout le temps d'un coin à l'autre. En exil. Un dernier texte et je termine. On va donner la parole à notre Seigneur quand même pour terminer. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, c'est la fin du sermon sur la montagne, 3 chapitres où Jésus parle du royaume. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. C'est vrai que personne ne fait ça. Hein. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Écoutez, ce que Dieu dit n'a jamais sauvé personne, mes amis. Il faut mettre en pratique. Vous savez ce qui est frappant, cette parabole ? En fait, j'ai fait tilt, parce que moi, je focalise surtout sur le sens global, mais il y a un truc qui m'est apparu il y a quelques semaines. Je n'avais jamais capté ça, en fait. Je vous le lis. Ce qui est frappant, cette parabole, c'est que les deux maisons sont identiques. Et de la rue, imaginez, hein, c'est des maisons, donc, allez, en bord de plage, parce qu'il y a du sable, allez, mettons. Ce sont deux maisons mitoyennes, l'une à côté de l'autre, et vous passez dans la rue et vous regardez ces maisons, elles sont identiques. De la rue de l'extérieur, personne ne peut voir les fondations de ces maisons. Vous voyez que la façade, si on vous invite à rentrer, vous voyez à l'intérieur, vous ne verrez jamais les fondations, parce que l'apparence est la même. Les fondations, vous n'y avez pas accès. Extérieurement, elles sont les mêmes, mais l'une a de solides fondations, et l'autre, dit Jésus, n'en a pas. L'une est fondée sur la parole de Dieu et l'obéissance à celle-ci. L'autre est fondée sur le sable de l'illusion. L'une tiendra face aux vicissitudes de la vie, aux tempêtes de la vie. L'autre s'effondrera. Alors, ce n'est pas un pari que fait Jésus ici, mais une prophétie. Il énonce un fait qui finira tôt ou tard par arriver. Vous fondez votre vie sur autre chose que la parole de Dieu, la foi en lui et sa parole. Votre maison s'effondrera. Si vous faites l'inverse, si vous lui faites confiance par la foi et vous faites ce qu'il vous dit, vous apprenez à marcher en obéissance à sa parole, quoi qu'il arrive, votre maison tiendra. Quand on sait que ces maisons symbolisent nos vies, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Seigneur, par sa parole, dit à son Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.